Alors, l'an passé, nous avions entrepris d'aborder le Moyen-Âge sous un angle pluridisciplinaire et cette année, nous poursuivons notre progression historique avec la Renaissance, qui est une époque que j'aime beaucoup, qui me donne l'impression de donner une troisième dimension. C'est bien sûr l'époque où la perspective apparaît de manière visible, surtout dans la peinture, parce que dans la sculpture, vous verrez, par exemple, si vous allez à la cathédrale, à la collégiale Saint-Vaudru, que les statues qui sont en bas et qui devaient être en hauteur sont déjà prévues pour la hauteur selon la perspective. C'est d'ailleurs assez amusant de les voir de tout près, mais on a vraiment une ouverture dans une nouvelle dimension avec bien sûr les grandes découvertes également, ainsi que avec l'arrivée du protestantisme qui casse l'idée d'un monde unifié que l'on peut de temps en temps avoir au Moyen Âge. Pour nous introduire à ce cycle, c'est Monsieur Bruno Bernard, donc pas Monsieur Waterbrock, Monsieur Bernard, qui est historien moderniste, qui s'intéresse aussi bien à la Renaissance qu'au XVIIIe. Il est chargé de cours à l'Université libre de Bruxelles, co-directeur du groupe d'études du XVIIIe siècle et de la revue Études sur le XVIIIe. Il est spécialiste de l'histoire politique, religieuse, socioculturelle et plus particulièrement du siècle des Lumières. Il est aussi en ce moment professeur à l'Université de Ferrare et je lui cède tout de suite la parole.
Je vous remercie beaucoup d'abord de m'avoir invité, un petit peu par hasard, puisque je remplace au pied levé M. Waterbrock, mais c'est avec plaisir évidemment que je le fais. Donc ma conférence est évidemment une introduction au cycle qui va suivre, puisque j'ai vu que vous aviez une douzaine de conférences concernant ce thème. Donc en tant qu'historien surtout, je vais peut-être tracer une espèce de tableau général de ces grandes découvertes qui donnent le titre à cette série. Non pas une histoire détaillée des grandes découvertes, parce que je pense que d'abord c'est connu en partie. Je ne vais pas vous raconter encore une fois le voyage de Christophe Colomb, celui de Marco Polo, etc. Donc je vais essayer d'être bref pour le détail, de remettre l'ensemble en perspective, peut-être de vous apprendre des choses moins connues, notamment sur le fait que ces grandes découvertes ont commencé bien avant la période à laquelle on les situe généralement. Et puis surtout à m'attacher à essayer d'en discerner les causes et les conséquences. Pourquoi l'Europe s'est-elle lancée à la découverte du monde? Pourquoi est-ce que c'est l'Europe et pas les autres continents qui l'ont fait? Et quelles ont été les conséquences, évidemment essentiellement pour l'Europe, puisque c'est le titre de la série « Les grandes découvertes quand l'Europe renaît ». Alors, première question peut-être qu'il faut se poser, c'est pourquoi est-ce l'Europe qui est partie à la découverte du monde? Ben, il y a un certain nombre de raisons, évidemment, il n'y a pas une seule raison. Ce serait d'ailleurs trop simple et ça n'est jamais conseillé lorsqu'on fait des études dites scientifiques de donner une seule raison pour un phénomène. Donc ici non plus, ce n'est pas une seule raison qui explique pourquoi l'Europe s'est lancée à la découverte du monde. Il y a des raisons qui sont peut-être plus évidentes que d'autres. La première raison, certainement, en tout cas la plus évidente peut-être, c'est que l'Europe est certainement le continent, si on peut appeler ça un continent, puisque vous savez que si on doit tracer les limites de l'Europe, il faut à un moment couper en deux l'un ou l'autre continent, de toute façon. Ce sont les développements technologiques. Ces développements technologiques, ils ne datent pas des temps modernes, ils ne datent pas du XVIe siècle, ils datent déjà du Moyen Âge. Et je parle ici de développements technologiques, notamment en matière agricole. Il y a en effet, au cours du Moyen Âge, une modernisation qui peut nous paraître bon, relativement rudimentaire bien sûr, mais tout de même importante, de l'attelage. L'attelage agricole, notamment avec le collier d'épaule qui s'adapte évidemment sur l'animal de trait, la charrue à roues, ce qui est une invention importante puisqu'effectivement d'abord on va plus droit et c'est plus facile à commander, et d'autre part le soc métallique. Le fait qu'on remplace un soc durci au bois par un soc métallique fait qu'il est beaucoup plus efficace, beaucoup plus solide, qu'il peut labourer plus profondément et donc de meilleurs rendements agricoles. Vous allez dire, on est très loin des grandes découvertes, mais vous allez voir qu'il y a un certain rapport. Deuxième élément, certainement, avec ces nouveaux moyens technologiques, également une importante campagne de défrichement qui, en Europe, s'étend notamment à partir du XIIe siècle essentiellement. Ces défrichements, ben, tout simplement, les historiens, les jeunes historiens dans les séminaires auxquels on apprend l'histoire, on leur explique que s'il y a défrichement, ça veut dire qu'il y a augmentation de population. On ne défriche pas pour le plaisir, on défriche parce qu'on a besoin. Et effectivement, l'augmentation des rendements agricoles dont je vous ai parlé, elle va s'accompagner d'une hausse démographique qui va provoquer des défrichements. Donc tout ça indique que l'Europe est en expansion d'une certaine façon. Et en avance technologiquement, si je peux employer le terme, sur les autres continents. On parlera évidemment aussi des techniques maritimes, bien entendu, puisque c'est important dans le cadre des grandes découvertes. Deuxième élément qui fait de l'Europe un continent un petit peu particulier, ce sont les progrès en matière commerciale qui ont lieu à la fin du Moyen-Âge également. L'emploi de la lettre de change, une espèce de système de crédit d'une place à l'autre, une sorte de chèque, entre guillemets, qui permet de faire des paiements différés dans l'espace et dans le temps et qui facilite évidemment l'expansion du commerce. L'organisation de marchés internationaux, qui sont bien connus pour le Moyen-Âge, notamment les grandes foires de Champagne qui se trouvent à mi-chemin, dit-on toujours, entre les deux régions les plus riches, c'est-à-dire la Flandre ou les Flandres, mais enfin il s'agit essentiellement des Flandres telles que nous les connaissons aujourd'hui, l'ouest de la Belgique et puis le nord de l'Italie. Elles sont juste à mi-chemin ou à peu près à mi-chemin, et donc ces foires sont importantes, mais il y en a un petit peu partout en Europe aussi. Et donc la construction qui se fait au cours de la seconde partie ou la fin du Moyen-Âge d'une véritable économie européenne. Donc un continent, entre guillemets, relativement unifié ou qui se sent une espèce d'identité commune qui fonctionne en symbiose de plus en plus. Il ne faut pas être caricatural et imaginer une Europe déjà en formation, mais en tout cas, les contacts sont de plus en plus fréquents entre les contacts qu'il y avait au 8e siècle et ceux qui ont lieu au 14e siècle. Il y a une énorme différence. Troisième élément, peut-être pour nuancer justement ce que je viens de dire, nous sommes en phase économique A, c'est-à-dire, bon, les économistes distinguent, c'est pas très difficile à retenir, les phases A qui sont des phases de croissance, des phases B qui sont des phases de décroissance. Il semblerait que nous sommes dans une toute petite phase B à l'intérieur d'une phase A actuellement. Parce que quand on parle des phases A et des phases B, ça s'étale sur des dizaines d'années, c'est pas d'une année à l'autre. Alors, il y a une phase A, manifestement, qui se déroule environ de 1200, et ça correspond à ce que je vous ai expliqué à propos des défrichements, de l'augmentation des rendements, etc., de 1200 à 1348. 1348-49 pour une raison très simple. Non pas une question, je dirais, de couper un siècle en deux, mais simplement parce qu'il y a une peste très importante, la peste dite noire, en 1348, qui va faire des ravages. Je ne pense pas qu'il y ait un autre événement, y compris la Seconde Guerre mondiale, qui ait fait autant de morts en Europe en pourcentage de la population. C'est environ un tiers de la population européenne qui va décéder, mais en un temps rapide, en 2 à 3 ans. Il y a des régions qui ont connu des mortalités de 50-60%. Il y a des petites communautés, on cite toujours évidemment les couvents, parce qu'ils sont... La contagion au sein d'un couvent, c'est assez important. Il arrive qu'il y ait 95% de mortalité. Ça s'est produit d'ailleurs à Bruxelles, chez les Alexiens, c'est bien connu. Donc, il est évident que cette peste noire et les millions de morts qu'elle implique désorganisent complètement l'économie européenne. Et vous vous trouvez à ce moment-là dans une phase B, dans laquelle, évidemment, les systèmes économiques ont tendance à un petit peu se dérégler. Ce qui est amusant et curieux et intéressant pour nous, c'est que c'est justement dans cette phase B que vont se produire les principaux éléments des grandes découvertes, en tout cas les premiers éléments qui vont lancer en réalité les grandes découvertes. Alors cette phase B de décroissance, on l'estime plus ou moins à 1348, 1400, certains disent 50, certains disent jusqu'en 1500, ça dépend des régions, ça dépend des pays, mais en tout cas elle dure au moins un siècle, ça c'est certain. Et puis lui succède, comme toujours, une phase A de recroissance ou de reprise de la croissance. Donc à partir des années, en tout cas certainement à partir des années 1480-90, jusque vers 1620. Et je reparlerai de cette date de 1620 parce qu'elle marque, même si elle est 1620 approximativement, c'est pas une date phare dans l'histoire, mais la décennie des années 1610-1620 est à peu près la dernière pendant laquelle les arrivages de métaux précieux d'Amérique sont extrêmement importants. Et il y a une décroissance très importante après. Donc, ça marque évidemment un affaiblissement de l'apport des colonies au point de vue métallique, métaux précieux pour l'Europe, et ça marque le début d'une phase de crise, entre guillemets, qui va se terminer en fait au début du XVIIIe siècle, où on sera de nouveau dans une phase A. Donc je me répète, phase A 1200-1348 à peu près, phase B de 1348 au milieu ou à la fin du XVe siècle, et puis à partir des années 1480-90 jusqu'à 1620, une nouvelle phase A. Et comme je l'ai dit, c'est dans le cours de la phase B que vont se produire un certain nombre d'événements dont je parlerai dans un instant, et qui montrent bien que c'est déjà au XIIIe-XIVe siècle que commencent les dites grandes découvertes, et non pas fin XVe, début XVIe, avec les grands personnages que sont Christophe Colomb, Magellan, etc. Alors je vous ai indiqué, parce que je pense, enfin je ne les ai pas vus, je n'ai pas lu toute la bibliographie qui vous est remise, mais il se trouve que je les ai avec moi, donc je peux vous les faire passer si vous voulez. Voici deux volumes qui sont de la même collection d'ailleurs, collection Nouvelle Clio, j'ai essayé de l'indiquer ici rapidement, parus tous les deux en 1995 aux presses universitaires de France, mais ce sont des ouvrages qui sont des rééditions. C'est la troisième ou quatrième édition d'un ouvrage des années 60, mais revu, remis au goût du jour par le même auteur d'ailleurs, Pierre Chaunu. C'est la dernière édition malheureusement, parce que Pierre Chaunu, je ne sais pas quel âge il a, mais il n'est pas loin des 90 ans. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de nouvelle édition. Or, c'est le principal manuel sur le sujet qu'on utilise dans les universités, et donc ça vaut la peine de le connaître. Il contient d'ailleurs une bibliographie énorme à la fin, au début, sur le sujet. Et comme vous le voyez, il y a deux volumes, l'expansion européenne du XIIIe au XVe, et puis Conquête et exploitation des nouveaux mondes, donc un volume qui, lui, parle de ce que vous connaissez, et probablement la grande période du début du XVIe siècle. Alors je termine avec mon pourquoi l'Europe. Sans doute pour l'Europe aussi par opposition aux autres continents. Pourquoi pas la Chine et l'Inde ? Eh bien tout simplement parce que la Chine et l'Inde n'ont pas des civilisations qui les portent à se tourner vers l'extérieur. On sait que la Chine est particulièrement, je ne dis pas fermée, enfin elle est fermée en grande partie, mais centrée sur elle-même, c'est essentiellement ça que je veux dire. Quand on parle de l'empire du milieu, ça veut dire que c'est le centre du monde. Et j'ai lu récemment une biographie d'André Malraux. André Malraux a été convoqué à Washington par le président Nixon lorsqu'il savait qu'il allait aller en Chine. Et il voulait lui demander conseil puisqu'André Malraux était allé à Pékin avant lui et avait rencontré Mao Tse-tung, etc. Et Malraux dit, ce que je lui ai dit, c'est tout simplement ça. Vous y allez, vous y allez pas, ça leur est égal. Ne vous en faites pas. Ce ne sera pas un événement pour eux, etc., etc. Donc cette idée d'une Chine qui se considère comme un centre du monde, effectivement, est assez indifférente aux autres civilisations, en tout cas à l'époque c'est le cas, même si il y a eu des contacts et on sait qu'il y a eu un moment, et notamment pendant la période mongole où la dynastie mongole était intéressée par le christianisme. Il y a eu aussi au XVIIe siècle un certain nombre de pères jésuites qui se sont lancés dans l'astronomie en Chine. Donc elle n'est pas totalement fermée, bien entendu. Mais en tout cas, elle n'a pas le désir de s'étendre au-delà de son propre continent ou des pays immédiatement environnants. Deuxième continent enfin, dont on peut parler aussi, c'est l'Afrique. L'Afrique est trop morcelée pour... Elle ne constitue pas une unité, si vous voulez. Il y a des quantités de royaumes qui n'ont pas de contact entre eux, qui d'ailleurs sont très peu tournés vers la mer. Il y a peu d'endroits en Afrique où à l'époque où les civilisations sont maritimes, elles sont plutôt internes. Le long du golfe de Guinée, là, il y a effectivement des civilisations maritimes dont je vais reparler, mais... Il n'y a pas de volonté ni de connaissance des techniques suffisantes non plus pour se lancer à la conquête des autres continents. Et enfin, le monde musulman méditerranéen, c'est la dernière civilisation dont on peut parler, puisque je n'évoque pas l'Amérique, évidemment. Le monde musulman, qui s'est étendu, lui, bien entendu, puisque si on considère même la conquête arabe, on part de l'Arabie saoudite actuelle jusqu'en Espagne, dans le Proche-Orient, etc. Donc il y a vraiment, au contraire, une volonté de s'étendre, mais qui s'est heurtée justement à la résistance, à la frontière des chrétiens et qui ne va pas plus loin. Et qui est d'ailleurs en recul depuis 732, la bataille de Poitiers, si je peux dire ça comme ça, c'est un peu rapide, mais en tout cas, c'est l'avancée extrême vers le nord des musulmans en Europe occidentale. Et à partir de 732, il y a un certain recul qui va s'accélérer, surtout à partir du XIIe, XIIIe siècle, avec la reconquête ou la reconquista espagnole. Alors parlons un peu dans un deuxième chapitre, si on peut appeler ça comme ça, de l'Atlantique. L'Atlantique, c'est la frontière inconnue, d'une certaine façon. C'est la seule frontière inconnue, puisque vers les Indes, la Chine, le Proche-Orient, il y a eu des expéditions européennes. Marco Polo à la fin du XIIIe siècle. Vers le sud, on sait qu'il y a les musulmans. Et il y a cette grande, immense étendue d'eau atlantique, et aussi l'interrogation sur ce qui est au-delà de l'empire musulman ou des territoires musulmans au sud. Il y a des cartes d'Afrique de l'époque qui sont assez amusantes parce qu'elles représentent l'Afrique comme une espèce de croissant, pratiquement. Donc vous avez une Afrique qui se limiterait au Maghreb et au Mashrek et puis au désert du Sahara, et en dessous il y aurait la mer. Donc toute la partie sud est totalement inconnue des Européens. Et ils vont se lancer dans ces deux directions, comme vous le savez. D'abord le long des côtes africaines et ensuite à travers l'océan Atlantique. Mais pour ce qui est de l'exploration de l'Atlantique immédiatement proche du Portugal et de l'Espagne, ce ne sont pas les Espagnols et les Portugais qui s'y sont lancés les premiers. C'est ça qui est très étonnant. En 1291, donc c'est très tôt, bien avant les grands voyages que nous connaissons, c'est deux siècles avant Christophe Colomb, deux Italiens, c'est assez curieux, des Génois d'ailleurs, comme Christophe Colomb, Ugolino et Vadino Vivaldi, le même nom que le compositeur, je ne sais pas s'il y a un lien familial, franchissent le détroit de Gibraltar et figurez-vous, ils partent pour les Indes. Donc, ils ont l'idée que dans l'Atlantique, il y a moyen, à un moment, d'une façon ou d'une autre, de rejoindre les Indes. Malheureusement, ces deux voyageurs, ils sont partis, mais ils ne sont jamais revenus. On n'a jamais su ce qu'ils étaient devenus. Il y a un autre exemple, d'ailleurs, d'un voyageur dont je vais reparler tout à l'heure, dont on sait qu'il avait un projet, il est parti, et puis lui aussi, on ne sait pas jusqu'où il est allé, ni ce qu'il est devenu. Vers 1330-40, donc une cinquantaine d'années plus tard, des Florentins et des Génois, de nouveau, pas des Espagnols et des Portugais, vont jusqu'aux Canaries et à Madère. Ils sont les premiers à y arriver. Avant, les Espagnols, les Portugais, les Français, les Anglais, qui vont suivre immédiatement dans les années qui suivent. Mais ce sont d'abord des Florentins et des Génois qui vont les premiers aux Canaries, à Madère, et qui vont peut-être découvrir les Açores. En 1346, donc quelques années après, le Catalan Jaume, je pense, Ferrer, dont j'ai indiqué le nom ici, descend le long des côtes africaines, donc commence l'exploration des côtes africaines. Mais donc, encore une fois, c'est un Catalan, donc il ne vient pas de la frontière, de la façade atlantique, il vient de la façade méditerranéenne. et il passe donc le détroit de Gibraltar, il descend, et semble-t-il, il aurait peut-être été jusqu'au Sénégal, mais là aussi, il n'est pas revenu, donc on ne sait pas exactement où il s'est arrêté. Pourquoi ces explorations ? Pas tellement pour l'aspect géographique, découverte, etc., essentiellement par l'attrait de l'or. L'attrait de l'or, parce qu'on sait, quand on est en contact avec les musulmans le long de la côte méditerranéenne, que ces musulmans font venir de l'or, ou se procurent de l'or, en tout cas, quelque part au sud. Et donc, si on longe les côtes, peut-être qu'on pourrait arriver à ce pays magnifique qui s'appelle Mali. Hein, on connaît le nom du royaume du Mali, et qui serait l'origine de cet or. Donc, c'est probablement pour ces raisons-là qu'ils arrivent dans l'Atlantique et qu'ils essayent, comme les musulmans sont sur le territoire du Maghreb et du Mashrek et qu'il n'est pas possible évidemment de traverser pour descendre plus bas, on se dit qu'en longeant les côtes, peut-être qu'on va pouvoir arriver au Mali. C'est ça la raison de ces explorations qui ne sont pas des explorations, qui sont en fait des voyages de recherche de cet or. Alors, question suivante, peut-être, après le pourquoi l'Europe, c'est pourquoi l'Espagne et le Portugal sont-ils, ou le Portugal et l'Espagne dans l'ordre, sont-ils les premiers à se lancer dans les dites grandes découvertes ? Alors, certains mettent ça sur le compte d'une espèce d'habitus de la conquista, hein, le fait d'avoir vécu pendant 2 siècles ou 3 siècles dans un combat permanent pour récupérer ces pays, entre guillemets, perdus par les chrétiens. D'autres mettent ça sur le compte des contacts importants et permanents qu'ont les Espagnols, notamment avec les Italiens, puisque la Méditerranée est un lien, non seulement ça, mais il y a aussi des liens politiques. Et donc, les relations politico-commerciales entre l'Italie et la Catalogne, par exemple, sont extrêmement fréquentes. Donc, l'expérience de ces marins italiens. Autre élément, c'est l'habitude des marins espagnols à fréquenter les côtes cantabriques, donc au nord de l'Espagne, qui sont des côtes très déchiquetées, très découpées, pour aller à la pêche à la morue. Et donc, ils ont une expérience de la navigation difficile et parfois en haute mer. Et puis, une raison géographique, tout de même, qui est le fait de profiter des alizés. Donc, ces vents qui s'inversent pendant l'été, des vents qui, pendant l'été, permettent facilement, à partir des côtes espagnoles et portugaises, de descendre, vous emmènent pratiquement, si je peux dire, jusque vers les côtes africaines. Et si vous les suivez, entre guillemets, et c'est comme ça, semble-t-il, que Cabral a découvert le Brésil, jusque l'Amérique du Sud. Il y a une espèce de circuit, si vous voulez, qui descend le long de la côte africaine et qui ensuite part vers l'ouest et vers l'Amérique du Sud. Donc ça aurait facilité les choses, bien entendu. Et un dernier élément historique, celui-là, où un homme intervient, il aide en tout cas matériellement, c'est le fameux Henri le Navigateur, qui n'est pas un roi du Portugal, contrairement à ce que beaucoup croient, mais qui est le troisième fils du roi Jean Ier du Portugal. Henri Navigateur qui a vécu de 1394 à 1460 et qui s'est lancé, enfin, c'est une espèce de prince frustré, on en connaît d'autres, qui fallait bien qu'il s'occupe à quelque chose. Et donc il s'est destiné justement à aider à ces expéditions, à la fois, et lui c'est à la fois par curiosité géographique, par intérêt matériel. Il se disait qu'il y avait peut-être moyen, s'il finançait des expéditions, d'en récupérer quelque chose. Et enfin, par désir de christianisation, puisqu'il y a quand même ce motif-là n'est pas totalement inexistant, évidemment, dans la colonisation. Et donc, ces trois motifs ont fait d'Henri le Navigateur un promoteur de conquête. Ça, c'est tout à fait évident pour le Portugal. Il se trouve que Henri le Navigateur participe en 1415 à la première expédition officielle, si je peux dire, portugaise sur la côte africaine, dans la ville de Ceuta, dont je vous ai indiqué le nom ici, ou Ceuta en français, ville qui se trouve sur la côte marocaine, c'est en face de Gibraltar, mais qui est aujourd'hui, curieusement d'ailleurs, espagnole, alors que c'est les Portugais qui l'ont conquise. C'était le premier port de l'Empire du Maroc, donc ce n'était pas un petit port isolé, c'était le plus important des ports marocains. Il se trouve que Henri le Navigateur se trouvait là, à ce moment-là, et que c'est ça certainement qui a déclenché sa volonté d'aller plus loin. Il y a eu un moment, une envie de conquérir le Maroc, hein, donc on était déjà parti dans des projets gigantesques. Alors, les Portugais se lancent sur les côtes de l'Afrique pour un certain nombre de raisons. Plusieurs raisons. C'est d'abord, très simple à comprendre, l'or, bien entendu, du Mali ou du Soudan. Ça dépend comment les deux dénominations existent. Quand on dit le Soudan, ça veut dire le pays des Noirs. Hein. Ce n'est pas le Soudan actuel, c'est tout ce qui se trouve au sud du Sahara, en réalité, l'Afrique noire. Le blé, il y a des disettes au Portugal à peu près un an sur trois. Donc, conquérir des terres en Afrique pourrait peut-être permettre de régler cette question. Le sel, à l'époque, c'est un peu le pétrole d'aujourd'hui. C'est un élément extrêmement important pour la conservation des aliments et sur lesquels on prélève des taxes importantes d'ailleurs. Donc, c'est souvent un monopole d'État, etc. Donc, là aussi, il y aurait moyen. Et on sait qu'il y a du sel au Sahara, il y a des salines et au Sahel également. Et puis le cuivre qui se trouve au Maghreb. Donc il y a tout un tas d'éléments de ce type. Alors on y ajoute la christianisation, la volonté de croisade, entre guillemets, et on y ajoute aussi, et ça va s'ajouter de façon un petit peu accidentelle, la recherche de main-d'œuvre qui va transformer en réalité en esclavage. Alors, les grandes étapes de cette avancée, c'est là que je vais être assez bref sur les grandes étapes des avancées le long des côtes africaines. 1415, Ceuta, donc on est en face de Gibraltar, on est tout à fait en face de l'Europe, et on descend progressivement. 1434, une étape importante avec le cap Bojador, je vous ai indiqué le nom au tableau, qui se trouve au sud du Maroc. Importante parce que du point de vue de la navigation, c'est un cap qu'il faut pouvoir passer et qui demande une certaine technicité, et donc ça prouve que les Européens ont obtenu justement des avancées techniques. On va en reparler dans un instant. En 1444, donc c'est relativement lent à notre échelle à nous, hein, 1415, 1434, 1444, ça fait déjà 30 ans que c'est commencé, et ils arrivent seulement au Sénégal, aux îles du Cap-Vert, 1444. Et il faut encore 30 ans ou 32 ans, 1476, pour atteindre le Congo, l'embouchure du fleuve Congo, très exactement. Et tout cela se fait avec l'aide ou sous l'impulsion d'Henri le Navigateur, en tout cas jusqu'en 1460. C'est lui qui finance les entrepreneurs de conquête, comme on les appelle, qui ne partent pas, je dirais, ce sont des privés, mais enfin qui passent une espèce de contrat avec l'État, d'une certaine façon, comme ça va se faire avec Christophe Colomb, d'ailleurs, on le verra. Alors, ce qui a aidé à tout cela, c'est le développement des techniques maritimes, notamment le fait que les Européens ont dû apprendre à jouer avec les vents très compliqués de l'océan Atlantique. Il y a une carte dans un des livres là, qui est absolument effarante. Il y a des flèches dans tous les sens. Il y a certainement plus de 100 flèches sur cette carte qui représente l'Atlantique Sud. Donc c'est pour vous donner une idée de la complexité des vents et qui change évidemment avec les différentes saisons. Donc, ils ont appris ça, bien entendu, ça c'est une première amélioration. Et surtout, pour mieux en profiter, ils ont construit les caravelles. La caravelle, c'est le vaisseau relativement long, c'est pas un vaisseau trop ramassé, si je peux dire ça comme ça. Il est assez allongé et en même temps, il dispose, c'est ça surtout le gros avantage, il dispose de voiles de types différents. Il y a les voiles carrées, extrêmement importantes, il y a plusieurs mâts sur une caravelle, il y en a trois ou quatre. Et donc, il y a des voiles carrées de grande ampleur qui prennent le vent très facilement. Et puis, vous avez à l'arrière une voile latine qui permet de faire la direction, latine voulant dire une voile triangulaire. Dernier élément important, c'est le gouvernail d'étambot, comme on dit, Etambot, étambot, qui est un gouvernail fixé à la coque du navire. Et donc, pas une rame, si vous voulez, qui permet de diriger. Le gouvernail étant fixé à la coque du navire, c'est beaucoup plus facile, évidemment, à diriger qu'à la rame. Alors, la caravelle s'impose à partir de 1441 comme vraiment le véhicule le plus intéressant pour la colonisation, pour les conquêtes maritimes. Autres éléments qui viennent appuyer l'avancée des Portugais, qui n'ont rien à voir avec tout ça, c'est d'une part l'appui offert par le pape à l'exploration. On a réussi à convaincre le pape que, bien entendu, on n'allait pas seulement faire du commerce et des découvertes, mais aussi christianiser les populations découvertes. Population qui sera relativement facile, pour ce qui est de l'Afrique noire, de convertir, semble-t-il. Nettement plus facile que ce sera le cas avec, évidemment, les populations musulmanes. Et ces populations seront réduites en partie en esclavage. Là, il y a peut-être une espèce de légende. Enfin bon, je ne veux pas dresser un tableau tout rose, mais il y a deux choses qu'il faut dire. D'abord, c'est que ce ne sont pas les Européens qui ont inventé l'esclavage des populations africaines noires en arrivant. Deux choses, ces populations africaines, lorsqu'elles combattaient, et c'était le cas chez nous dans l'Antiquité aussi d'ailleurs, vous le savez, avec les Romains, les Grecs, etc. Lorsqu'elles combattaient et faisaient des prisonniers, ces prisonniers étaient réduits en esclavage, souvent pour un temps donné, pas à vie, donc ce ne sont pas exactement des esclaves au sens où nous on l'entend, des personnes qui sont astreintes à un travail forcé pendant un certain temps au service des vainqueurs. Donc ça, c'était une tradition africaine aussi, comme ça avait été le cas chez nous. Et deuxièmement, les musulmans avaient commencé à, et c'est comme ça que les Européens savaient évidemment qu'il y avait possibilité d'avoir des esclaves noirs, les musulmans en avaient eux-mêmes sur les côtes de la Méditerranée. Ce qui est certain, c'est que les Européens ont accéléré ce phénomène d'une façon exponentielle, en ont fait une véritable industrie, ce qui n'avait jamais été le cas. Ici, ça a été des levées organisées d'esclaves, on envoyait, et c'est pas les Européens qui le faisaient eux-mêmes généralement, c'est les populations de la côte africaine notamment, entre le Sénégal et le Congo, si vous voulez, dans ce qu'on appelle le golfe de Guinée, qui, pour plaire aux Européens, parce qu'ils en espéraient quelque chose, partaient faire des razzias à l'intérieur du pays et capturaient des gens d'une ethnie voisine pour les vendre aux Européens, qui, eux, en échange, donnaient des vieux fusils, des miroirs, etc. Donc, les Européens en ont fait un véritable commerce et ont créé un marché, si vous voulez, ce qui n'existait pas de cette façon-là. C'était le hasard de la guerre qui faisait qu'on faisait des esclaves. Ici, c'est devenu, si vous nous amenez 100 hommes, on vous donnera ceci et cela. Et donc, les Africains de la côte partaient, parfois aidés des Européens, bien sûr, des Portugais, pour faire des razzias d'esclaves. Alors, le mouvement s'est un petit peu stabilisé. En 1476, arrivé au Congo, il faudra attendre un petit peu, quelques années, pour qu'une relance se fasse. Et en 1488, donc il aura fallu plus de 70 ans en réalité, entre Ceuta et le sud de l'Afrique, 1488, c'est le passage par Bartolomé Dias, dont je vous ai indiqué le nom ici, du cap dit des tempêtes, que nous connaissons comme le cap de Bonne-Espérance, donc en Afrique du Sud. Bartolomé Dias l'a dépassé, mais il ne l'a pas vu. C'est ça qui est assez amusant, c'est que dans les récits qu'on a, on sait où il est allé, mais... il y avait du brouillard, il est passé assez loin. Finalement, il ne s'est pas aperçu qu'il passait le cap. Mais on sait qu'il a été plus loin. Donc forcément, il l'avait passé. Il est remonté peut-être une centaine de kilomètres plus loin sur la côte est de l'Afrique. Voilà. Et intéressant à signaler, c'est que dans cette région-là, bon, les Européens ne sont pas les premiers à arriver. Les Chinois, c'est loin pourtant, hein. Les Chinois sont déjà venus dans cette région du cap 100 ans avant Bartolomé Dias, pour faire du commerce, et ils ne sont plus revenus. Ça n'a pas fonctionné, mais les Chinois sont présents, par exemple, dans les régions de l'Inde, entre l'Inde, le Kenya, etc. Donc il y a du trafic commercial qui se fait avec des bateaux chinois et des bateaux arabes. À partir du niveau du Kenya environ, les Européens vont commencer à rencontrer des concurrents. Et quand je dis des concurrents, ça veut dire des concurrents avec des canons à bord et des abordages et des prises de navires, etc. Donc ça ne va pas se faire de façon amicale. Alors, le grand voyage, bien sûr, c'est Vasco de Gama qui va terminer, si je peux dire, ce voyage vers les Indes, les vraies, hein, pas les Indes occidentales, celles, les Indes orientales, en 1497-98. Il est parti en juillet 97, il a fait évidemment des escales puisque c'était le chemin des Portugais, donc il pouvait sans problème faire des escales. Alors une chose à dire aussi, c'est que quand vous êtes dans un territoire portugais, si vous êtes un navire espagnol, il n'est pas question de faire escale. La route, c'est la route des Portugais. Si un navire espagnol essayait, ou français ou anglais, essayait de prendre la route des Portugais, il se fait tirer dessus ou s'aborder directement. Donc ici, c'est la route des Portugais, il y a des comptoirs, des forteresses tout le long de la côte, et donc il va en profiter pour faire escale. Il mettra quand même pas mal de temps, puisqu'il arrivera seulement au mois de mai 1498 sur la côte indienne, à Calicut, très exactement. Je vous ai indiqué le nom également ici, sur la côte ouest de l'Inde, sud-ouest de l'Inde. On a fêté, je me souviens, en 98, il y avait eu les Portugais l'avaient fêté très fort, les Indiens l'avaient fêté un peu moins fort, mais enfin, ils l'avaient fêté un petit peu aussi. Il y avait en tout cas eu des expos et des cérémonies. Alors, entre-temps, bien sûr, il y a eu Christophe Colomb et d'autres choses qui se sont passées. Je reviens donc maintenant sur le côté atlantique. Christophe Colomb, c'est un Génois, comme vous le savez probablement, donc un Italien. Et c'est un fils d'artisan, c'est pas un fils de marin du tout. C'est lui et ses frères, il y a quand même quelque chose d'un peu familial là-dedans, qui se sont mis à naviguer. Il a navigué en Méditerranée pendant des années, entre l'âge de 15 et 25 ans à peu près. Et il était très intéressé par les cartes maritimes. Et il a travaillé dans des ateliers de confection de cartes marines, et donc il connaissait très bien ce thème-là. Et puis il se trouve qu'en 1476, donc il y a du hasard dans cette histoire-là, en 1476, il est engagé sur un bateau flamand, curieusement, qui donc part d'Italie et va, en principe, retrouver les Flandres et fait naufrage au large du Portugal. Christophe Colomb est blessé, il se trouve accroché à un morceau d'épave. On pense qu'il a nagé environ 10 km pour atteindre la plage de Lagos, qui est aujourd'hui devenu un lieu de... J'y suis allé d'ailleurs un jour par hasard, sans savoir à l'époque que Christophe Colomb avait débarqué là, mais je me suis baigné à Lagos, donc voilà. Ça fait un effet un peu bizarre quand vous apprenez que c'est là qu'il a débarqué, sur cette plage aujourd'hui très touristique. Et Lagos n'est pas très loin de Lisbonne. Il s'est rendu à Lisbonne, où son frère aîné, en fait, était installé à Lisbonne. Et donc, il s'est dit, puisque mon frère est là, ben, je vais aller là, au moins je serai aidé, quoi. Et effectivement, il y est resté. Et il s'est engagé dans une compagnie qui dressait des cartes maritimes. Et donc, là aussi, il a continué cette passion pour les cartes. Et il a navigué. Il a navigué bien plus qu'on ne croit avant de partir pour l'Amérique. Sachez qu'il a été en Islande avec des bateaux portugais, qu'il a été à Madère aussi. Et donc, il a profité pour continuer ses explorations maritimes. Et à Madère, il a rencontré sa future femme. C'est un détail, mais c'est très important pour ce qui est de son destin, parce que elle était fille de seigneur madérois ou madérien, je sais qu'on dit les deux, donc j'ai choisi Madérois plutôt. Fille de seigneur Madérois, donc portugais. Je crois que son beau-frère était, le beau-frère de Christophe Colomb, était gouverneur d'une des îles. Enfin, c'était de l'aristocratie locale, entre guillemets. C'était pas des gens de son milieu à lui, en réalité. C'était un milieu plus aisé. Et donc, il va profiter de l'occasion pour visiter aussi un certain nombre d'endroits très importants, et passé 2 ans dans le principal port, je crois que j'ai indiqué ici, São Jorge da Mina, Saint-Georges de la Mine en français, qui se trouve dans l'actuel Ghana, enfin l'ancien Ghana. J'ai oublié comment s'appelait Ghana aujourd'hui. Non, ça s'appelait, en anglais c'est Gold Coast, donc c'est la côte de l'or, voilà. Et puis ça s'est appelé Ghana et ça a changé. Le Bénin, peut-être ? Je ne suis pas sûr. Bon. Pas sûr. À moins que ça continue à s'appeler le Ghana, je confonds avec un autre pays. Oui, je crois que c'est toujours le Ghana. Et donc le Ghana, parce qu'on n'en parle jamais, c'est pour ça. Le Ghana, c'est la côte de l'or, et Saint-Georges de la Mine, c'est le principal comptoir portugais fortifié en Afrique de l'Ouest. Il va passer là 2 ans, entre 1482 et 1484, donc il connaît bien l'empire colonial portugais, la navigation, il est allé au nord, au sud, etc. Donc ce n'est pas par hasard qu'on va le retrouver ensuite dans ce grand voyage. Ce grand voyage, il date des années 1470, le projet. Ce n'est pas une improvisation, puisque c'est à peu près 18 ans avant la réalisation du projet qu'il en a l'idée. Et il semble qu'il en a eu l'idée en 1474. Donc le voyage, c'est 1492, donc il y a 18 ans entre les deux. Et 1474 parce que cette année-là, en juin 1474, il y a un médecin astronome florentin qui a écrit, donc un compatriote, entre guillemets, si je peux dire, un Italien aussi, qui a écrit à un chanoine portugais que connaissait très bien Christophe Colomb, qui s'intéressait aux sciences et aux explorations, à la mer et au monde de la navigation. Il lui a écrit qu'il avait fait des calculs astronomiques qui prouvait que du point le plus occidental qui avait été conquis par les Portugais, c'est-à-dire les Açores, jusqu'au Japon, à l'île de Sipangu, La Chine s'appelait Cathay à l'époque, je l'ai indiqué ici. Donc Sipangu, c'est I-P-A-N-G-U. Il y aurait eu 2400 000 marins. Ce qui est relativement peu, et c'est en fait pratiquement 4 fois moins que la réalité. Donc, l'hypothèse était évidemment qu'en quelques, peut-être une dizaine de jours, on allait pouvoir traverser cet océan et arriver au Japon et puis en Chine, qui étaient évidemment connus tous les deux déjà à cette époque-là. Alors Colomb est très excité par cette perspective, mais il va mettre beaucoup de temps, non seulement à se décider, mais aussi à convaincre. Il faudra beaucoup de temps pour convaincre un sponsor, comme on dit, de l'équiper. Il n'a pas les moyens d'équiper 3 ou 4 navires avec des dizaines d'hommes d'équipage sur chaque navire. Il lui faut un financement. Ce financement, il va le demander d'abord aux Portugais, aussi bien au roi du Portugal qu'à des grands seigneurs portugais, etc. Mais Henri Navigateur n'est plus là, et bon, il n'y a plus personne pour l'aider. Et les Portugais sont tellement axés sur l'Afrique et le chemin, la route des Indes, que se disperser en allant financer une expédition hypothétique qui va sans doute, comme les précédents dont je vous ai parlé, sombrer au milieu de l'Atlantique, ne les intéresse pas. Et c'est Isabelle de Castille, la jeune reine, qui vient de reconquérir, la même année d'ailleurs, les territoires espagnols, le royaume de Grenade. Donc ils ont achevé en 1492 la Reconquista chrétienne de l'Espagne. La même année, vous imaginez, en 1992, il y avait eu aussi des festivités en Espagne. Il y avait deux choses à fêter, c'était à la fois évidemment la Reconquista et puis la conquête de Colomb. C'est elle qui accepte, mais contre l'avis de ses conseillers. Elle a même fait rattraper Christophe Colomb qui était parti sur la route, elle avait refusé. Et puis finalement, elle a changé d'avis et on a rattrapé Colomb en disant « si, venez, la reine est d'accord ». Il est vrai que Christophe Colomb posait des questions parfois très… enfin des conditions très… léonines, comme on dit. Hein, il avait des exigences très importantes. Alors il a par exemple obtenu que s'il découvrait des terres, il en serait le vice-roi. Vous imaginez un fils d'artisan génois qui devient le vice-roi des terres découvertes en Amérique, qu'il aurait un certain pourcentage de l'or découvert, etc. Je crois qu'il a eu 10%. Enfin bon, il y a eu toute une négociation. Et ils ont signé finalement le 7 avril 1492 ce qu'on appelle les capitulations de Santa Fe, qui était le contrat en réalité entre la reine et Christophe Colomb. Alors je ne vous raconte pas en détail son voyage. Il est parti le 3 août 1492. On pensait qu'on allait arriver dans le courant du mois d'août, on est arrivé le 12 octobre. Et pas au Japon, bien sûr, nous le savons. Pas vraiment non plus en Amérique. Enfin oui, en Amérique, mais au sens très large. Alors, ils sont arrivés en réalité dans l'île de San Salvador, aux Bahamas, c'est-à-dire au sud de la Floride. En réalité, ils étaient tout près du continent américain, puisqu'il aurait suffi de monter un peu au sud, au nord, peut-être 100 ou 150 kilomètres, ou 1000, enfin j'ai du mal à m'exprimer en 1000, je dois dire, je ne suis pas marin, c'est que ça fait 1850 mètres à peu près. Donc, il aurait suffi de peut-être 2 jours de navigation pour aller en Floride, mais bon, ils ne savaient pas qu'il y avait la Floride, et donc ils ont continué l'exploration par Cuba. Cuba qu'il a immédiatement identifié avec Cathay, qui était à l'époque le nom de la Chine, que je vous ai indiqué ici aussi. Il est mort, persuadé, paraît-il. Ça me paraît toujours étonnant, mais il paraît qu'il est mort persuadé, à peu près 15 ans après, en 1506, d'avoir découvert la Chine, ou des îles dépendant des Chinois. Enfin bon, c'est assez difficile à croire, mais c'est comme ça. Alors le deuxième voyage, il en fait 4. Deuxième voyage l'année suivante, pour Saint-Domingue, l'île qui s'est appelée Espagnola, évidemment. Et Saint-Domingue, c'était beaucoup plus intéressant que Salvador et même à la rigueur que Cuba, parce qu'il y avait 1 million d'habitants environ. Et les Espagnols ont commencé dès 1493 la conquête et exploitation des nouveaux mondes, comme dit Chaunu, exploitation des populations. Donc, capture des populations, travail forcé, etc., plantation, et révolte l'année suivante, déjà 1494, première révolte des habitants de Saint-Domingue. Troisième voyage, il a découvert, exploré les côtes du Venezuela, mais il n'a pas fait de conquête, simplement une exploration géographique. Et quatrième voyage, l'Amérique centrale. Donc là, il est allé 2 fois sur le continent, mais uniquement au Venezuela et en Amérique centrale. Et puis ensuite, vous le savez, il y a Cortés au Mexique vers 1520, il y a Pizarro au Pérou vers 1525, qui finalement conquiert et vainc le... comment s'appelle-t-il Atahualpa, au Pérou, en 1531, et puis Magellan qui fait le tour du monde. Bon, je ne vais pas répéter des choses qui sont très très connues, très probablement. Entre 1520 et 1522, l'expédition de Magellan en Magala, c'est écrit ici, c'est le nom en portugais, est assez particulière, puisque Magellan va mourir au cours de l'expédition, il sera tué aux Philippines, et finalement, ce sont ses lieutenants, ses aides qui vont terminer le tour du monde, mais au moins on aura prouvé que la Terre était ronde, en passant évidemment par le détroit de Magellan au sud de l'Amérique. Alors l'arrivée des Européens en Amérique sera relativement dramatique pour les populations, pour des raisons qu'il ne faut pas là non plus caricaturer. Bien sûr, il y a des mauvais traitements et surtout il y a le travail forcé. Ça, c'est très clair que c'est une cause de mortalité importante. Il y a la guerre, les hostilités qui se déclenchent, la résistance des populations et le fait que les populations fuient les Européens dans des régions inhospitalières. Évidemment, elles laissent tomber les régions dans lesquelles elles sont, qui sont les plus intéressantes, et se réfugient dans les montagnes, etc., où, ben, une fois réfugiés, on est sauvé des Européens, mais on a du mal à survivre. Mais surtout, la cause la plus importante de mortalité, ce sont les épidémies. Les Européens amènent avec eux des maladies. Alors quand j'interroge des étudiants sur ce thème-là, j'ai entendu toutes sortes de choses, comme quoi les Européens avaient amené des virus pour tuer les populations. Mais les étudiants, il faut tout expliquer, autrement ils comprennent de travers. Donc, j'ai déjà entendu ça, hein, les Européens amènent des virus et puis ils répandent dans la population, ils sont tous malades et ils meurent. Voilà. J'avais pas dû être assez clair. Mais là, c'est bon, simplement, ils ne sont pas immunisés. Donc les Européens, eux, ont une espèce de grippe, pas évidemment la fameuse grippe qu'on nous promet, mais la grippe banale qu'on a tous eue et qui ne vous tue pas. Mais comme ces populations, elles, n'ont jamais connu, et notamment la grippe d'ailleurs, ça en fait partie, n'ont jamais connu ce type de maladie, ne sont pas immunisées du tout, ça fait des dégâts énormes. On pense, hein, évidemment c'est très difficile, hein, Chaunu donne des chiffres, mais qui sont quand même toujours un peu, comme il dit, à la grosse louche. Donc c'est très hypothétique, mais il y aurait eu 80% de décès au total, de maladies, de travail forcé, de combat, etc., dans ces populations. En tout cas, c'est une véritable hécatombe. C'est évident qu'il y a une immense partie de la population d'Amérique latine et centrale qui a été décimée par l'arrivée des Européens. Alors, évidemment, je ne suis pas venu pour vous faire l'histoire de la colonisation et des grandes découvertes. Je vais maintenant surtout m'attacher à la question qui me paraît quand même la plus intéressante, c'est en quoi finalement les grandes découvertes, puisque c'était le titre de l'exposé, marquent-elles l'entrée dans ce qu'on peut appeler les temps modernes, le monde moderne. Alors le terme de moderne d'abord, parce qu'on l'emploie sans arrêt, sans très bien savoir finalement d'où il vient, qu'est-ce que ça veut dire moderne? Je ne vais pas m'amuser à poser la question, mais je ne suis pas sûr que j'aurai la bonne réponse. Oui, évidemment, le moderne, c'est mieux que l'ancien, enfin bon, c'est plus à la mode, donc il y a des rapports avec la mode, etc., peut-être. En fait, ça vient de modernus en latin, mais ça c'est du bas latin, et en latin classique, c'est odiernus, avec un H, j'aurais dû l'écrire aussi, avec un H, donc H-O-D-I-E-R-N-U-S, odiernus, qui veut dire « d'aujourd'hui ». Odier, c'est aujourd'hui, donc odiernus, c'est un adjectif fabriqué à partir de odier, qui veut dire d'aujourd'hui. C'est actuel, si vous voulez, c'est ça que ça veut dire finalement. Donc les temps modernes sont les temps actuels, et cette notion, évidemment, elle n'est pas d'époque. Hein. C'est évident que les gens de l'époque ne parlaient pas des temps modernes par opposition à l'Antiquité, au Moyen-Âge. Ça, c'est des choses qui ont été créées beaucoup plus tard, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, et où le Moyen-Âge est apparu essentiellement comme le terme déjà de Moyen-Âge ne veut rien dire en réalité. C'est un âge moyen, enfin, c'est simplement l'âge intermédiaire entre les deux âges vraiment glorieux, c'est-à-dire l'Antiquité gréco-latine, et puis les temps modernes avec la Renaissance dont vous allez parler longuement dans les différentes conférences ici, où on redécouvre en grande partie justement l'Antiquité. Et c'est un peu la volonté de dire ben, le Moyen-Âge a été 1000 ans de perdu, entre guillemets, d'étouffement sous la coupe de l'Église catholique, etc. Et on a sauté par-dessus cette période et on retrouve enfin, à partir de la Renaissance, la philosophie antique et l'art de vivre antique, etc. Donc ici, les temps modernes, c'est une notion un peu floue. Et d'ailleurs, si on dit à des gens qui ne sont pas étudiants à l'université ou pas historiens qu'on travaille sur les temps modernes, il faut toujours dire, expliquer immédiatement 16e, 17e, 18e siècle, parce qu'autrement, c'est une notion assez floue, quoi. Et après, l'époque contemporaine. Donc c'est ce qu'il y a entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine qui commence avec la Révolution française ou qui commence en 1830 si on est en Belgique. Ça dépend un peu des gens et des périodes aussi. Ça a évolué pas mal, cette histoire-là. Alors sachez qu'en allemand, en anglais, il y a le early modern, donc la période dont je traite, c'est le début du moderne, mais le moderne continue pratiquement jusqu'au 19e siècle inclus. Pour les Allemands, c'est frühmoderne, c'est pareil, ça inclut le 19e, parce que la Révolution française n'est pas considérée comme une espèce de rupture totale, comme elle peut l'être du côté francophone, ou en Italie par exemple, où on considère qu'il y a eu une rupture complète et qu'on passe dans une autre époque à ce moment-là. Les Anglais, par exemple, refusent cette division, puisqu'ils n'ont pas vécu de changement majeur avec la Révolution française. Pour eux, c'est un accident de l'histoire, enfin, je sais pas, peut-être. Et donc, ça continue, quoi. Ça n'est que la suite. Voilà, après ce petit excursus, revenons donc à cette question de en quoi les grandes découvertes marquent l'entrée dans un monde moderne. Alors d'abord, le fait que l'expansion maritime, finalement, même si on a vu, il y a des Italiens qui participent, même partant d'Italie, je veux dire, je ne parle pas de colons, je parle de ceux qui précèdent, mais cette expansion se fait avant tout du côté atlantique, et donc donne une importance à la façade atlantique de l'Europe, non seulement l'Espagne et le Portugal, mais ça c'est le début, ce sont les grandes découvertes, mais par la suite, ce sont des pays atlantiques qui vont se lancer, évidemment, dans la colonisation, ce n'est pas l'Italie, ce n'est pas la Grèce, ce sont des pays qui ont une façade sur l'Atlantique. La France, dans une mesure moindre, semble-t-il, parce qu'elle est combattue par les Anglais, qui manifestement, du point de vue maritime, sont nettement plus forts, même s'ils sont beaucoup moins nombreux en réalité. Ça, c'est une différence énorme qu'on ne souligne pas assez, c'est que la population de l'Angleterre et du Pays de Galles, c'est un tiers ou un quart, ça dépend des périodes, de celle de la France. Or, la marine anglaise, comme vous le savez, est très puissante. Et puis, il y a la marine hollandaise. Et là, la marine hollandaise, au XVIIe siècle, par exemple, la marine hollandaise représente 50% des bateaux européens. Ils vivent de ça, hein, ils vivent de ce commerce, essentiellement. Les Hollandais n'ont pas des ressources terrestres particulièrement extraordinaires, très variées, etc., comme d'autres pays. Et donc, ils axent tout sur le commerce, à la fois sur le commerce externe qu'ils vont pratiquer avec leurs navires, mais aussi sur le fait de transformer Amsterdam en une espèce de plaque tournante financière et commerciale. Je me souviens d'avoir fait étudier un texte qui expliquait comment un marchand, c'est un texte d'époque de 18e, comment un marchand était reçu à Amsterdam. Il n'y avait pas un endroit mieux organisé pour un marchand européen qu'Amsterdam. Tout était fait pour lui rendre la vie facile. Il y avait des coursiers qui se promenaient sans arrêt pour transmettre les messages, les lettres de change. Il y avait des gens qui se baladaient avec des brouettes pour transporter la monnaie, etc. Tout était, alors avec les canaux, les quais, tout était parfaitement réglé. On ne perdait pas de temps, c'était extrêmement efficace. C'était un peu comme certaines places financières aujourd'hui, si vous voulez. C'était le modèle européen. Et les Hollandais ont fait leur richesse sur le commerce maritime et la finance sur place. Donc les pays atlantiques vont connaître un développement très important. Ça, c'est vraiment un élément issu directement des grandes découvertes. Le Portugal et l'Espagne, ça ne va pas durer très longtemps, malheureusement, pour eux. Comme je l'ai dit, après 1620, il y a une baisse énorme des arrivées de métaux précieux. Au meilleur moment, et pendant des décennies, c'est pas une moyenne sur un mois, c'est des décennies, pendant les périodes fastes donc, du XVIe siècle pratiquement en entier, des centaines, je crois que c'est entre 700 et 800 kilos d'or arrivaient par jour en moyenne au port de Cadix. Par jour, tous les jours de la semaine. Hein, c'est une moyenne faite sur un siècle divisée par le nombre de jours et vous arrivez à 700 kilos d'or par jour. C'est au moins 700, j'ai oublié le chiffre exact, mais c'est plus de 700 kilos d'or par jour. Alors vous imaginez ce que ça peut représenter, même pour un pays, c'est quand c'est tous les jours, ça fait, si on avait ça maintenant, faudrait dire ça à monsieur, comment s'appelle-t-il le Premier ministre, j'ai oublié, Madame Pei. Voilà. Donc, cet apport, il a permis à l'Espagne il a permis à l'Espagne une grande richesse. Mais elle n'a pas investi avec la facilité que ça pouvait donner, si vous voulez. Elle n'a absolument pas investi dans ses industries. Bon, elle n'avait pas des facilités agricoles extraordinaires. On connaissait le terrain espagnol, ce n'est pas le meilleur endroit pour faire certaines cultures. Pour d'autres, c'est très bon, mais pour le blé, etc., ce n'est pas le meilleur endroit. Donc, l'Espagne n'a pas voulu transformer son économie. Le Portugal a continué à pratiquer le commerce maritime, etc., mais n'a pas non plus développé des industries, etc. Et lorsque l'apport financier des métaux précieux s'est tari, eh bien, le déclin a commencé. Même s'il a été très lent, hein. Je ne veux pas dire que l'Espagne est ruinée en 1630, mais ça commence à aller de moins en moins bien et on ne réagit pas, si je peux dire, il n'y a pas eu de politique pour réagir à cela. C'est en fait au XVIIIe siècle, quand les choses commencent à aller vraiment mal, que les Espagnols s'y sont mis, notamment avec certains souverains éclairés du XVIIIe siècle. Alors cet afflux de métaux précieux, il a un effet pour l'Espagne et le Portugal, mais pour l'ensemble de l'Europe, puisque l'Espagne et le Portugal sont des clients en fait. Avec cet or, ben, ils achètent à l'étranger. Alors il y a quelque chose de très amusant que j'ai lu il n'y a pas longtemps, je crois que c'est l'an dernier. Bien entendu, je m'excuse, mais si vous voulez que je survive jusqu'à 7h30, il vaut mieux que je boive un peu. Dans les colonies, on dit la messe, comme ça se fait en Espagne. Il y a des grandes cathédrales qui sont construites au Mexique, etc. Et pour dire la messe, il faut des vêtements particuliers, brodés d'or notamment, de fil d'or. Alors on aurait pu imaginer que les Espagnols auraient soit installé à Mexico des brodeurs, etc., soit en Espagne. Non, ce qui se passe, c'est que l'or espagnol extorqué aux pays d'Amérique va dans la Méditerranée, passe le détroit de Gibraltar, débarque du côté de Marseille, par là, et remonte jusqu'à Lyon, où il y a les meilleurs brodeurs d'or d'Europe. Et puis ensuite, une fois que le vêtement est fabriqué, il repart au Mexique. Voilà. Alors, pour l'Espagne, évidemment, c'est une perte sèche. Pour Lyon, c'est formidable, mais je veux dire, la valeur ajoutée, elle est totalement... Alors, c'est symptomatique du genre de comportement. Je veux dire, je ne dis pas que tout est comme ça, mais si on est prêt à faire ça, on est prêt à faire beaucoup de choses de ce genre, puisqu'on a des moyens tellement énormes qu'on peut... Bon, peu importe, quoi. On ne va pas chicaner sur un détail pareil. On aurait très bien pu acheter des Lyonnais pour les faire travailler en Espagne, à mon avis, ou au Mexique. Si on les avait bien payés, ça aurait peut-être été plus logique. Mais bon, voilà. Parce qu'il faut savoir, la durée de transport est énorme. Hein. Ça veut dire un voyage de 6 mois. L'aller-retour, c'est au moins 6 mois, plus la fabrication. Donc, c'est une perte de temps et d'argent absolument énorme. Donc, cet or va irriguer, évidemment, tous les circuits commerciaux et monétaires européens. Et on va assister au développement d'un véritable capitalisme commercial. Alors, ce capitalisme commercial, il touche pas tellement l'Espagne et le Portugal, alors avec un obstacle supplémentaire, c'est qu'en Espagne notamment, mais en France aussi, il y a la fameuse dérogeance, un terme que j'aurais peut-être dû écrire, je vais l'écrire tout de suite, la dérogeance qui est l'interdiction pour les nobles de faire du commerce, en tout cas d'investir dans le commerce. Alors les nobles ont parfois demandé à ce qu'on lève cette interdiction. En Bretagne, par exemple, en France, ça n'existait pas. Donc la noblesse bretonne a pu se lancer dans un certain nombre d'expéditions. Au XVIIIe siècle, la noblesse du nord de la France a parfois été impliquée dans les mines, etc., investi son argent dans les mines. Mais globalement, la noblesse est un petit peu cramponnée en Espagne totalement sur cette idée de « nous ne sommes pas des commerçants, des bourgeois, etc., nous sommes au-dessus de tout ça ». Et donc, finalement, ils n'investissent pas leurs capitaux, qui sont pourtant importants, dans le commerce. Ils les conservent uniquement pour la terre ou pour la consommation de luxe. Alors, c'est la bourgeoisie, évidemment, qui va surtout se développer pendant cette période, avec notamment, pour ce qui est symptomatique du développement du capitalisme, la création de bourses. Et le terme de bourse lui-même fait penser immédiatement à la bourse que vous avez... dans laquelle, en principe, vous avez de gros écus, etc. Ça ne vient pas du tout de ça. Ça vient de la famille Van de Beurs, une famille brugeoise, qui va notamment s'installer à Anvers par la suite. Et une bourse sera créée à Anvers à la mi-15e siècle et à Amsterdam au début du 16e siècle. Ce sont les premières bourses européennes et mondiales. Et donc, à partir de là, bon, ça va aller très vite. Dans les 10 ou 20 ans qui suivent, il y a quelques dizaines de bourses qui vont se créer dans différentes grandes villes européennes. Autre élément, c'est que les grandes découvertes vont s'accompagner, je ne dis pas déboucher, parce que ma collègue ici a fait allusion tout à l'heure, mais il n'y a pas un lien direct, à mon avis, entre les deux. Les réformes protestantes vont arriver très peu de temps après, finalement. La réforme de Luther, ça date de 1517, mais Luther y pense déjà depuis 1510-1512. Donc c'est immédiatement après les découvertes, il se trouve que c'est à la même période, que Luther va faire sa prédication, va devoir rompre avec l'Église, ce qui n'était pas son projet au départ. Il voulait réformer l'Église intérieure, il ne voulait pas créer une nouvelle Église. Il a dû le faire parce qu'il était lui-même excommunié, expulsé de l'Église. Du point de vue économique, c'est intéressant parce que l'Église catholique interdit le prêt à intérêt, donc elle s'oppose aussi à l'essor économique. Il se trouve que dans les pays protestants, au contraire, on va l'autoriser. Les pays protestants, c'est justement tous ceux du nord de l'Europe, à peu près. Donc les Provinces-Unies, les Pays-Bas actuels, l'Angleterre, l'Écosse, bien sûr, une bonne partie de l'Allemagne, tout le nord de l'Allemagne, et puis la Scandinavie, etc. Et dans ces pays protestants luthériens, par exemple, on autorise un intérêt de 5%. Et alors on dit toujours que Calvin, lui, est encore plus proche des milieux bourgeois et de la mentalité commerçante. Effectivement, si on voit ça avec les chiffres, eh bien, Luther, c'est 5%, Calvin autorise 12%. Enfin, j'ai traduit ça, ça se dit pas en pourcents à l'époque, hein. C'est en sous par denier, etc. Mais si on traduit en pourcents, ça donne 5% pour Luther et 12% pour Calvin. Mais en tout cas, c'est autorisé. C'était pratiqué du côté catholique clandestinement, si je peux dire, ou de façon discrète. Et puis il y avait les rentes de l'hôtel de ville qui avaient été créées par François Ier. C'est-à-dire que c'est le roi qui avait besoin d'argent. Et donc le roi avait besoin d'argent, mais il n'allait pas provoquer l'Église en disant « j'emprunte à intérêt ». Et donc c'est l'hôtel de ville de Paris qui se met l'Église à dos en empruntant auprès des bourgeois de Paris et en leur promettant une rente, si vous voulez, un bénéfice. En fait, l'hôtel de ville de Paris emprunte pour le roi, en réalité, et prend un petit bénéfice au passage. Donc il y a le roi, il y a l'hôtel de ville de Paris, et puis il y a les rentiers parisiens ou français qui achètent des rentes de l'hôtel de ville. Donc ça, ça montre que l'interdiction du prêt intérêt dans les pays catholiques, elle n'est pas respectée à 100%, bien entendu. Donc les réformes participent effectivement à l'expansion européenne qui est issue directement des grandes découvertes, ou en tout cas la facilite, comme par hasard, dans ces pays du Nord. Alors évidemment, en conséquence des grandes découvertes aussi, c'est le changement des modes de consommation, avec notamment la consommation de produits relativement de luxe, mais qui vont pour certains assez vite se démocratiser. Il ne faut pas être très long là-dessus, vous les connaissez évidemment, le café, le thé, le chocolat, qui se sont démocratisés assez lentement quand même. Hein. La première tasse de café en Belgique a été bue, évidemment, depuis on en a bu beaucoup. La première, elle a été bue dans le château de... dans la frontière française près d'Astières. Comment s'appelle-t-il, au sud de Dinan, sur la droite, Fréhir, voilà, Fréhir. Louis XIV est venu à Fréhir pour signer, je n'ai oublié quel traité, dans l'une de ses guerres, et à cette occasion-là a été bu la première tasse de café en Belgique. Donc on est quand même très tard après la colonisation. Le chocolat, lui, va connaître une destinée très particulière, c'est le fait qu'il est considéré comme aphrodisiaque et donc une boisson un peu diabolique, etc. Il a fallu même l'interdire parce qu'on en buvait dans les églises, les femmes se faisaient apporter du chocolat, c'était drogué au chocolat. Est-ce que ça avait un rapport avec... on ne sait pas, mais les Espagnols, c'est des récits, même des prêtres ont écrit des livres contre le chocolat comme une boisson inventée par le diable, etc. Parce que les femmes ne pouvaient tellement pas s'en passer que les servantes en apportaient pendant la messe. Et puis le thé, comme vous le savez, a connu évidemment un grand succès outre-Manche, et aussi en Hollande d'ailleurs. Alors, il y a le sucre de canne qu'il ne faut pas oublier, qui permet de boire tout ça, bien sûr, plus facilement. Et puis, il y a le tabac qui est évidemment un genre de conquête un peu moins souriante. Mais au total, on peut dire que l'Europe se civilise d'une certaine façon par ses nouvelles habitudes alimentaires. Il y a un côté convivial dans ce genre de boissons ou d'habitudes, même le tabac d'ailleurs, dans les cafés, dans les fumeries, entre guillemets, même des soldats de Frédéric II, on voit ça sur certaines gravures. Donc il y a une convivialité autour de ces nouveaux modes de consommation qui s'installent, ça c'est tout à fait évident. Et puis il y a des médicaments, et notamment à partir du quinquennat, la quinine, qui permet de faire baisser la fièvre. Donc il y a tout un tas de changements médicaux et alimentaires qui vont se faire. Alors c'est une période aussi qui marque quand même le début, et les temps modernes c'est quand même ça. Et là, on peut les étendre, et là, les Anglais et les Allemands ont peut-être raison, on peut les étendre jusqu'au XXe siècle, le début de l'hégémonie européenne sur le monde. Parce que ce n'est pas seulement une découverte et du commerce, en réalité, on sait très bien que c'est le début de la colonisation et de l'imposition par les Européens non seulement de leur domination économique, mais aussi de leur mode de vie. De leur mode de vie et de leur mentalité ou de leur idéologie. Il y a le début de la mondialisation, on peut appeler ça comme ça. Finalement, c'est vers ça que ça débouche, finalement, à la fin du XXe siècle. C'est une véritable mondialisation selon le modèle européen, anglo-saxon, occidental. Enfin, on peut discuter du terme exact. Mais en tout cas, c'est évident que c'est directement issu de tout ça. Donc, on entre effectivement dans une nouvelle époque de façon très importante. Et puis, dernier élément, peut-être le plus intéressant ou le plus sujet à débat, c'est les contacts de culture et le relativisme qui va s'en suivre. Donc, le fait de connaître des cultures totalement. Bon, elles n'étaient pas totalement inconnues pour ce qui est de la Chine, pour ce qui est du monde musulman. Le monde noir était quand même déjà beaucoup moins connu, évidemment, l'Amérique pas du tout. Donc, il y a la découverte de nouvelles civilisations. Et la confrontation du modèle européen avec des civilisations qui ne connaissent pas, qui n'ont pas ces bases, sur lesquelles on ne peut pas retrouver de point de repère, d'une certaine façon. Alors, il y a deux attitudes. Soit vous retrouvez, c'est le cas de Voltaire, par exemple, soit vous retrouvez dans ces populations, finalement, toujours les mêmes principes. L'idée qu'il y a une espèce de morale universelle, vous voyez bien que finalement, ils aiment tous leurs enfants, que finalement, ils trouvent que tuer, c'est pas bien, que finalement, il ne faut pas voler à son voisin, etc. Une espèce de morale de plus petit dénominateur commun. Ou bien l'inverse, l'accentuation en montrant toutes les différences et à quel point c'est exotique et différent et à quel point ils ne vivent pas comme nous. Donc, les deux sont présents, ça c'est tout à fait évident. Et puis, il y a un problème énorme, c'est la contradiction entre le message chrétien véhiculé par les Européens et puis les réalités de la colonisation, qui souvent sont totalement contradictoires. Et il n'a pas fallu longtemps pour le découvrir, puisque dès la fin du XVe siècle et le début du XVIe siècle, Bartolomé de Las Casas a été le premier anticolonialiste. En tout cas, le premier anticolonialiste connu. Il est né en 1470, et il se trouve que son père était un colon, et que lui-même a été colon. Donc, il n'est pas, c'est pas, je veux dire, un saint. Je ne sais pas s'il a été canonisé ou béatifié, mais il me semble qu'il y a quelque chose comme ça. Je ne fais pas allusion à des événements récents. Mais, comme disait Eddy Merckx, il va être canonisé saint. J'ai entendu ça à la radio, il l'a répété au moins 5 fois. Il va être canonisé saint. Personne n'a osé lui dire, bon, mais ce n'était pas en direct, en plus, ils auraient pu recommencer l'enregistrement. Non, ils l'ont laissé faire. Donc, il s'est rendu ridicule plusieurs fois, comme ça, en disant ça. C'est dommage. Bon, Las Casas, donc, fils d'un colon, lui-même colon, et puis il change d'orientation, mais totalement, parce qu'il a une mauvaise conscience. C'est vraiment ça. Il entre dans les ordres. Las Casas, qui était destiné à devenir un conquistador, entre guillemets, et un colon, entre dans les ordres en 1512, se fait prêtre. Alors, il y a l'ingénieur qui est là, non ? Il n'est plus là, il est parti. Vous voulez me le mettre parce que moi je vois pas ce que je fais. Merci. Donc il devient prêtre en 1512 et il entre dans l'ordre des Dominicains en 1522. Et les Dominicains, c'est un des ordres mendiants. Donc c'est une façon de montrer sa volonté d'austérité, etc., et d'humilité. Et puis il rentre en Espagne pour expliquer à Charles Quint, qui est le roi d'Espagne et l'empereur évidemment à ce moment-là, ce qui se passe exactement, et lui expliquer à quel point c'est intolérable. Et Charles Quint, en 1526, interdit l'esclavage, il faut quand même le dire. Donc il accepte qu'on fasse travailler des gens en les payant, même si on les paye très peu, mais en tout cas qu'il n'y ait pas le statut d'esclave. Aucun effet sur place. Vous imaginez que les ordres de Charles Quint sont suivis. Il faut 2 mois pour aller dans les colonies. Là-bas, les choses se règlent à coup avec les armes. Enfin, il ne va pas entamer une guerre pour imposer l'abolition de l'esclavage. Donc concrètement, ça a très très peu d'effet. Mais en tout cas, il y a un débat qui est entamé. Il se trouve que le pape Paul III, qui est celui qui va convoquer le concile de Trente quelques années plus tard, interdit l'esclavage, condamne l'esclavage en 1537. C'est curieux, enfin, je ne veux pas faire de l'anticléricalisme primaire, mais il aura fallu quand même quelques années pour comprendre qu'il y avait un problème. Bon, 1537, sans effet non plus, sinon que les pères missionnaires qui accompagnent, évidemment, essayent de contrer un petit peu, d'améliorer la situation des populations, avec des effets entre guillemets pervers, puisqu'on sait que par exemple au Paraguay, il y a eu ces fameuses réductions indiennes. Ce qu'on appelait des réductions, c'était des territoires protégés par notamment la Compagnie de Jésus, qui prétendait, enfin qui le faisait effectivement, ne pas mettre ces populations en esclavage et au contraire les élever vers le Seigneur en leur enseignant évidemment la religion, mais aussi en leur enseignant un certain nombre d'éléments comme l'écriture ou la musique ou des arts, etc. Oui, et d'un autre côté, la Compagnie de Jésus s'est enrichie, ce n'est pas moi qui le dis, hein, puisqu'elle a été supprimée notamment à cause de ça au XVIIIe siècle, parce qu'on a estimé qu'elle trafiquait, enfin elle profitait finalement de la main-d'œuvre, même si elle les payait pas suffisamment pour ce qu'il faisait, et donc faisait d'énormes bénéfices, etc. Donc il y a eu un enrichissement, semble-t-il, de la Compagnie de Jésus là-dessus. Mais il y a eu une volonté d'une partie de l'Église de protéger les populations contre les excès des conquistadors. Ça, c'est absolument évident, bien sûr. Alors, la mauvaise conscience européenne, ce n'est pas quelque chose qui va disparaître très vite, puisqu'au XVIIe siècle, il y aura un certain Lahontan, dont j'ai indiqué le nom ici, qui est un Français du Canada, si vous voulez, du Canada français, qui va publier des ouvrages contre les mauvais traitements et même contre la colonisation elle-même. Alors, c'est la différence avec Las Casas. C'est que Las Casas ne condamne pas la colonisation du tout. Il dit, nous avons conquis ces territoires, ces gens sont espagnols. C'est tout. On ne doit pas les réduire en esclavage, ce sont des sujets espagnols comme les sujets espagnols d'Espagne. Donc, ils entrent dans l'Empire espagnol, ils doivent être traités comme des Espagnols. Mais il ne remet pas en cause l'arrivée des Européens, leur installation, etc. Et puis j'ai oublié de vous parler de la controverse de Valladolid, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous ont vu le film ou la série, la dramatique télévisée absolument extraordinaire avec Jean Carmet, Jean-Pierre Mariel et Jean-Louis Trintignant, déjà ces 3 noms. Ça. Mais si vous ne l'avez pas vu, regardez-le, c'est magnifique. Il y a un DVD d'ailleurs, je crois. Donc c'est absolument extraordinaire. La controverse de Valladolid a vraiment eu lieu en 1550. Elle a opposé Las Casas, qui défend évidemment des Indiens. On fait venir des Indiens qu'on amène au tribunal, entre guillemets, et on voit très bien ça dans le film, pour examiner une chose, parce que c'est très important du point de vue chrétien, ont-ils une âme ? Parce que s'ils n'ont pas d'âme, évidemment, ce sont des animaux, s'ils ont une âme, ce sont des hommes. Et finalement, la controverse se termine sans qu'une décision soit prise. On n'arrive pas à se mettre d'accord. Sepúlveda est totalement opposé, évidemment, à cette idée des Indiens qui ont une âme. Las Casas la défend. Peut-être vous nuancerez tout à l'heure ce que je dis, mais il ne me semblait pas, moi, qu'il y avait une solution claire qui sortait de cette controverse et qu'en tout cas, la papauté avait pris une position immédiatement en accord avec l'idée de Las Casas. Même si, bien sûr, petit à petit, l'idée se répand. C'est assez curieux que le pape Paul III, d'un côté, est condamné en 1537, et puis qu'en 1550, en Espagne, on fasse encore des discussions pour savoir si ce sont des hommes, alors que d'un autre côté, on a condamné l'esclavage. Bon. Donc là, il y a vraiment un problème, manifestement, au sein de l'Église elle-même. Et ça, bon, je n'ai pas le temps d'en débattre, bien sûr. Alors, après, là, longtemps, il y a Raynal et Diderot au XVIIIe siècle, avec l'histoire des deux Indes, célèbre best-seller, contre la colonisation, c'est l'essentiel du message. Expliquant la colonisation, c'est une histoire de la colonisation en 10 volumes, donc très complète, pas mal faite du tout, mais avec beaucoup de tirades contre la colonisation, mais aussi de tirades contre les régimes occidentaux. Il y a un côté politique, donc une volonté de régler ses comptes avec la monarchie, les monarchies européennes, en montrant un certain nombre d'exemples type « bon sauvage », entre guillemets, à la Rousseau, de populations pures, etc., qu'on a perverties, en montrant des gouvernements qui se déroulent très bien, où tout est rose, par rapport au gouvernement européen oppresseur, etc. Donc il y a un côté d'exagération, d'une certaine façon, simplement parce que c'est un ouvrage polémique. Et puis, enfin, il faut quand même signaler la Société des Amis des Noirs, qui est une société de libération et d'abolition de l'esclavage, qui est créée au début, un peu avant la Révolution française, juste avant, en 87, je crois, par Brissot, qui est, dont je n'ai indiqué le nom, qui est un des leaders de la Gironde, donc des modérés de la Révolution, si vous voulez, et qui va ils vont obtenir effectivement l'abolition. C'est un peu facile, parce que la France n'a pas des milliers de colonies donc, à l'époque, donc ce n'est pas très efficace au point de vue mondial, et cette abolition, il faut le signaler, sera révoquée par Bonaparte. Enfin, je crois qu'il est encore Bonaparte. C'est au moment du consulat, c'est pas l'Empire. C'est pendant le consulat, Napoléon, sous pression des commerçants armateurs, etc., va annuler finalement cette abolition. Elle mettra beaucoup de temps à se faire. Vous savez qu'en France, il y a eu Schœlcher au 19e siècle. C'est dans les années 30, 40, 50, 60 du 19e que ça s'est fait dans différents pays, dans les colonies indépendantes de différents pays. Donc il a fallu beaucoup de temps. Alors, plus largement, par rapport à ce débat, bien sûr, c'est le début de l'ethnologie, d'une certaine façon. C'est aussi le début des sciences, des populations d'autres civilisations, ou des populations, parce que finalement, l'ethnologie, on peut l'appliquer, et aujourd'hui, on l'applique, y compris aux populations européennes elles-mêmes. Et du relativisme culturel au sens le plus large. Alors, je voudrais terminer sur quelque chose qui m'est apparu un peu paradoxal. D'un côté, c'est évidemment, je vous l'ai dit, le moment où l'Europe étend son hégémonie, commence vraiment à prendre une expansion absolument énorme qui va, en deux siècles à peu près, lui faire conquérir l'essentiel des terres des différents continents, y compris la Chine à certains moments, enfin des civilisations, l'Inde, etc., des civilisations quand même anciennes, importantes, sur des territoires immenses. Donc l'Europe s'impose totalement, et c'est au même moment que ses contacts avec les autres cultures, de l'intérieur, entre guillemets, non pas l'affaiblissent, parce que il a fallu beaucoup de temps pour l'affaiblir, mais la mine un peu de l'intérieur par des débats internes. Donc c'est assez amusant de voir qu'en même temps que l'Europe s'étend à l'extérieur, et on pourrait dire prend un rôle de leadership mondial incontesté pendant plusieurs siècles, au même moment, c'est le moment où elle s'interroge sur elle-même, d'une certaine façon. Alors qu'il n'y avait pas de doute, si je peux dire, sur l'Europe au Moyen-Âge, par exemple. Et c'est au moment des temps modernes que le doute commence à naître, et puis il va croître. Bon, il y a eu une période où il y avait un peu moins de doute au 19e et dans la première moitié du 20e, mais aujourd'hui le doute est présent partout, à tout niveau, par rapport à la civilisation européenne, est-ce qu'elle a le droit de s'imposer ou pas, etc. Et ça, c'est né vraiment avec les temps modernes, et le simple fait d'être confronté à d'autres cultures, probablement, fait que une partie de la population se dit, bah oui, mais est-ce qu'on a vraiment raison? Est-ce que finalement, il n'y a pas du bon à prendre chez les autres, etc. Donc, il semble que ce sont ces contacts qui ont provoqué cette prise de conscience ou ce doute, entre guillemets, sur le caractère universel des valeurs européennes. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop long.
Merci également beaucoup, Monsieur Bernard, de nous avoir fait découvrir un aspect moins connu de cette époque. Et je vous cède tout de suite la parole pour des questions, des commentaires.
Oui.
En premier commentaire, nous sommes le 12 octobre.
Ah oui.
C'est le premier.
Oui, je ne l'ai pas fait exprès. Ça.
Alors, un détail sur la construction des navires que vous n'avez pas cité.
Oui.
C'est la on a cessé de construire les coques des navires à clin. C'est-à-dire qu'on met les planches jointives.
Ah oui, d'accord.
Et ça diminue fortement la traînée, donc les bateaux vont un peu plus vite. Alors, pour étayer ce que vous avez dit sur le passage des Chinois sur les côtes est, on a découvert dans certaines peuplades des traces ADN qui démontrent la chose.
Il y a eu des couples mixtes.
Oui, oui. Ensuite, encore quelque chose qui peut être intéressant, c'est que il ne faut pas oublier qu'Isabelle et Ferdinand ont chassé les Juifs et les Arabes.
Oui.
Et ça, il n'y avait donc plus d'artisans. Donc, il ne faut pas trop s'étonner qu'on ne fabriquait pas des fils d'or. C'est encore une bonne raison.
Oui, oui.
Alors, peut-être, je ne sais pas si l'information est exacte, les jésuites au Paraguay achetaient des esclaves noirs pour aider les autochtones. Oui.
Ça, je ne savais pas du tout, je veux dire. Mais ce qui est certain, c'est que j'en ai pas parlé, mais le commerce triangulaire, donc entre l'Europe, l'Afrique et... c'est en fait, si j'avais continué mon exposé, je serais tombé là-dessus. L'Europe, l'Afrique et l'Amérique, ce commerce triangulaire fonctionne de la façon suivante. Les Européens partent avec des navires chargés de produits de valeur relativement modeste pour eux, souvent périmés, des choses vraiment... de second ordre, entre guillemets, d'occasion, on dirait ça aujourd'hui comme ça, de seconde main, qu'ils échangent contre des esclaves auprès des populations côtières d'Afrique, qui sont friandes de ces biens qu'elles ne connaissent pas, qui vont, pour les Européens, et parfois avec leur aide, aller faire des captures, on remplit les bateaux et on les emmène en Amérique comme main-d'œuvre gratuite, entre guillemets, dans les colonies américaines, et puis de là, on ramène des produits coloniaux. Et ça fonctionne comme ça pendant un siècle et demi, de façon totalement organisée, régulière, avec des millions et des millions. J'ai oublié le chiffre, je ne voudrais pas dire une bêtise, mais c'est peut-être 15 ou 20 millions d'esclaves africains qui ont été transportés de l'autre côté, ou quelque chose comme ça. C'est un chiffre énorme. Donc c'était au niveau industriel, quoi. C'était organisé de façon industrielle. Et on visite, je crois que c'est au Sénégal, il y a plusieurs pays, mais notamment au Sénégal, il y a un fort... qu'on visite, où j'ai vu ça plusieurs fois à la télévision, où on montre l'endroit où les esclaves partaient. Voilà, ouais. Monsieur.
Monsieur, dans... Ça va comme ça ?
Oui, oui.
Dans un livre qu'il a dû écrire il y a une quinzaine d'années, De l'humo, l'historien français bien connu, c'est l'histoire du paradis terrestre. Il a écrit l'histoire du paradis terrestre. Et là-dedans, il dit qu'une des causes... du départ vers les grandes découvertes était l'inlassable recherche de ce paradis terrestre, dont notamment une cause dont on disait à l'époque que c'était un lieu couvert de pierres précieuses, d'or, enfin que ça ruisselait de richesses fabuleuses. Et je ne sais pas si on peut considérer cette...
Oui, c'est évident qu'il y a... on fantasme à partir de l'or du Mali, là, de façon certaine, parce que à travers la connaissance qu'on en a à travers les Arabes, manifestement, les quantités ont l'air importantes. Et puis on se dit que peut-être si on arrive à conquérir ce royaume, on pourra s'approvisionner directement. Et qu'il y a peut-être des mines d'or bien plus importantes que celles qu'on peut trouver en Europe. Ça, je ne sais pas si ça va jusque ce dont vous parlez, mais ça ne m'étonnerait pas. Ça n'est pas dans la mentalité du temps, effectivement. L'inconnu fait toujours rêver. Aujourd'hui, on rêve encore à trouver des êtres vivants sur une autre planète. Je ne sais pas s'il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Mais enfin, c'est quand même en partie ça qui pousse à la conquête. Il y a l'aspect, comme pour les grandes découvertes, il y a l'aspect commercial, mais il y a aussi l'aspect scientifique, mais il y a aussi l'aspect du rêve et éventuellement de découvertes qui pourraient... modifier la vision qu'on a de l'univers, mais aussi faire découvrir quelque chose d'un peu merveilleux, qui fait rêver, etc. Il y a quand même ça en partie, hein, dans les cosmonautes. Je peux dire, la vocation du cosmonaute, c'est quand même aussi un petit peu... C'est pas purement scientifique, je crois. Il y a un aspect affectif. Et donc là, on retrouve un peu ce rêve d'une espèce d'utopie.
Oui, vous avez parlé de la phase économique de croissance à partir de 1200.
Oui.
Et c'est aussi le développement des villes.
trop chez vous.
Important.
Développement donc, de l'État aussi.
De l'État, donc on va,
universités,
on va à l'école, non choses. Plus pour rentrer dans les ordres, mais pour devenir marchand, oui, commerçant, etc. Oui. La création des universités, c'est cette époque-là aussi, donc un processus.
Je donne un cours sur cette période, les trois éléments, c'est l'État, la ville, l'université.
Voilà. Eh bien, voilà. Alors en 732, on parle toujours de Poitiers, de la victoire des chrétiens, mais en réalité, c'est un peu comme les musulmans se sont comportés un peu comme les Hollandais dans le parc de Bruxelles en 1830. Ils sont partis. Il n'y a pas eu de bataille. Donc, les chrétiens n'ont pas gagné.
Oui. Pourtant, à Poitiers, on fait visiter le champ de bataille. Enfin, il y a un petit souvenir de champ de bataille.
Évidemment.
Oui, vous parliez de l'arrivage important de l'or en Espagne et des peu de conséquences que ça a entraîné, je dirais, sur le développement du pays, puisque une fois que cet arrivage s'est arrivé, l'Espagne a connu de grosses difficultés. Est-ce que cet arrivage important d'or n'a-t-il pas été en grosse partie utilisé pour les guerres sur le continent, puisqu'on est dans la période, essentiellement notamment sous Philippe II, de toutes les guerres qui ont été menées contre la France.
La plus grande armée d'Europe, un point de vue militaire, elle est vaincue pour la première fois à Rocroi. Avant ça, l'Espagne est toujours gagnante. Donc c'est vrai que, c'est pas le propre de l'Espagne. Tous les pays européens, tous les souverains européens prélèvent des impôts essentiellement pour financer l'armée. C'est quand même essentiellement leur but. C'est vraiment la première, la première partie du budget va à l'armée. Donc, effectivement, une bonne partie de la gloire des armées espagnoles vient de là, certainement, de la possibilité de financer armées qui sont, il faut le dire, dans tous les pays, des armées qui ne sont pas nationales, qui sont des armées de mercenaires la plupart du temps. Dans l'armée espagnole, il y a des gens de tous les pays, comme dans l'armée française ou anglaise, peut-être un petit peu moins, mais en tout cas, cette technique du mercenariat et les mercenaires, forcément, il faut les payer. Autrement, ils s'en vont, s'ils ne sont pas payés. Ou alors ils se servent sur quand on ne peut plus les payer, ils se servent sur la population. C'est comme ça que ça se passe. De toute façon, ils sont payés, ça c'est sûr. Mais ils ne viennent que pour ça. Donc, c'est des professionnels de la bataille qui sont là pour gagner de l'argent et si possible, faire fortune même. Oui.
Monsieur, un petit rappel, c'est au sujet de dérogeance. Le terme dérogeance, pourriez-vous nous rappeler qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, la dérogeance, c'est le fait pour un noble de ne pas pouvoir travailler. Et s'il travaille, il déroge. Donc, c'est la peine pour le noble qui a investi dans l'économie, travailler, c'est pas lui qui va travailler de ses mains, mais fait travailler son capital, voilà, c'est ça que ça veut dire en réalité. Et donc, dans ce cas-là, il perd sa qualité de noble, ça peut aller jusque-là.
Quand il travaille.
S'il travaille, il perd sa qualité de noble. C'est la noblesse, c'est justement le fait de ne pas devoir travailler. C'est la conception médiévale que vous connaissez sans doute, puisque vous avez eu l'an dernier un cours là-dessus, ceux qui prient, ceux qui travaillent, et ceux qui combattent. Les nobles combattent, mais ils ne travaillent pas, ils ne prient pas non plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, le clergé prie pour les autres, et puis il y a l'immense majorité de travail, et les nobles, eux, combattent, et c'est leur mission dans la société, et donc leur faire autre chose serait le déshonneur, quoi, c'est ça.
D'autres questions?
On a parlé au moment de, disons, l'extermination des populations, des maladies apportées par les Européens.
Oui.
Mais je suppose que l'inverse a été vrai aussi.
Alors curieusement, je n'ai pas trouvé beaucoup
de
traces d'un effet inverse. Il y a sans doute eu quelques cas, mais pas dans la même proportion visiblement. C'est assez curieux, mais ça aussi c'est le hasard qui fait, parce que là c'est vraiment le hasard, ou alors la main de Dieu, c'est souvent comme on veut, mais c'est ce qui fait que les Européens ont eu relativement facile à conquérir ces pays. Par ailleurs, il y a une chose dont je n'ai pas eu le temps de parler, c'est le retard technologique, entre guillemets, pour ce qui est de l'Amérique du Sud, par exemple, ou l'Amérique centrale. Ce sont des pays où on ne connaît pas la roue, du tout. Donc vous imaginez, pour les transports, les déplacements, on ne connaît pas le cheval. Quand Cortés arrive au Mexique, on le prend pour un être, comment est-ce qu'on peut dire, un peu fantasmagorique, pas un humain, quoi. Voilà, le cheval et l'homme, on n'a pas compris tout de suite que c'était deux êtres différents. Oui, voilà. Et donc, la facilité avec laquelle quelques centaines d'hommes, parce qu'ils sont 300, 400, arrivent à conquérir un empire comme le Pérou, s'explique par là, les armes à feu, mais aussi la roue, le cheval, la peur des Indiens, etc. Et alors, la religion s'implante assez facilement aussi, et les Européens ont très bien compris ça, il suffit de convertir les chefs, convertir de force, hein, la plupart du temps. Et parfois, on les tue après, comme c'était le cas d'Atahualpa, on l'a étranglé immédiatement après. Mais le fait qu'il ait accepté publiquement de se convertir à la religion des chrétiens veut dire pour les populations, le Dieu des chrétiens est plus fort que le nôtre. Donc, si on veut être protégé, il vaut mieux se mettre sous la protection du Dieu des chrétiens que sous les anciens. Ils jouent sur ce phénomène-là. Et donc, les populations, pour être protégées, se convertissent. Les vainqueurs, le Dieu des vainqueurs, plus fort que le nôtre, il vaut mieux se mettre sous sa protection, ce sera plus sûr. Et ça, les Européens jouent de façon très évidente là-dessus. C'est pas du tout caché. Ça se fait comme ça. Si on convertit les chefs, on convertira la population. Mais ça, c'est une mentalité qu'on a en Europe aussi. Hein. Quand on a la paix d'Augsbourg en 1555, veut dire cuius regio et ius religio, de telle religion, de tel pouvoir. Regio, c'est le pouvoir. De telle religion, donc de telle obédience, si vous voulez. Vous appartenez à tel prince, vous êtes de telle religion. C'est le prince qui se convertit au protestantisme, tous les sujets sont censés suivre. Ou bien vous déménagez, ou bien vous convertissez. Déménager, c'est pas... Je dis ça en blaguant, parce que c'est pas toujours possible. Ah ben oui, oui. L'exemple de Clovis, beaucoup plus tôt, évidemment. Oui, mais c'est vrai, c'est le principe. On passe d'une religion à l'autre parce que le souverain est passé. Et quand on accepte la paix d'Augsbourg, l'idée, c'est que la tolérance religieuse, tolérance négative, c'est-à-dire purement parce qu'on ne peut pas faire autrement, s'applique au prince. Il ne s'agit pas de dire tous les gens du Saint-Empire peuvent choisir leur religion. La tolérance s'applique aux quelques centaines de princes qui pourront changer de religion. Les gens suivront. Donc à ce moment-là, il y a des migrations à certains moments. Mais ce n'est pas toujours facile. Économiquement, les gens ne peuvent pas passer d'un État à l'autre. D'abord, ils ont souvent des obligations féodales, entre guillemets, avec un souverain, et il n'est pas question qu'ils aillent s'installer ailleurs, comme on peut le faire aujourd'hui, on déménage parce qu'on a un nouveau travail. Là, vous êtes lié à une personne, et vous êtes son sujet, vous n'avez pas le droit de... Donc, clandestinement, les cultes continuent, d'un côté comme de l'autre, etc., et ça rend les situations assez difficiles.
Juste une autre petite question, s'il vous plaît. Me rappelez le titre du film
avec Jean La controverse de Valladolid.
V-A-2-L-A-D-O-L-I-D.
Voilà. Il vaut la peine, vraiment.
Dans la controverse, c'est justement le noir, le seul noir qui est dans...
Attendez le micro, peut-être.
Le noir qui apparaît à la fin de la controverse montre bien que lui... Il est exclu de ce problème de recherche d'armes.
Ah, oui,
il n'en a sûrement pas, lui.
Oui, oui, ça c'est. Oui, j'ai oublié de dire ça. C'est qu'effectivement, Las Casas, c'est là que ça montre quand même, entre guillemets, la limite de la contestation de la colonisation par Las Casas. C'est qu'il amène effectivement des Indiens qui sont ses protégés, il faut le dire, hein, comme pour lui des sujets espagnols, etc. Mais il ne s'est pas battu pour les esclaves noirs du tout. Il a absolument accepté. Le fait que les Noirs africains, eux, n'étaient pas des hommes et qu'ils devaient servir d'esclaves dans les colonies américaines. Donc, Las Casas, c'est quand même quelqu'un de, comment dire, qu'on peut juger plutôt positivement, mais il y a une espèce de limite à sa prédication quand même. Aujourd'hui, ça nous choque. Bon, pour l'époque, c'était entre guillemets un progrès par rapport à une situation où on disait « ce sont des bêtes et on peut les traiter comme on veut ». Mais il ne va pas jusqu'au bout du raisonnement du tout. Donc, et je l'ai dit, il ne remet absolument pas en cause la colonisation, pas du tout.
D'autres questions ?
À propos du calcul qui avait été fait de la distance entre l'Europe et
Alors, c'était entre Madère ou les Açores,
oui,
et le Japon.
Oui, et le Japon. Je crois qu'il y avait eu une erreur de calcul, une mauvaise traduction. Je crois que le calcul avait été fait par les Grecs, et puis en passant par les Arabes, on avait mal, disons...
Il y a eu une erreur, exact.
Disons,
Le calcul de Toscanelli, en tout cas... Comment dirais-je ? Est moins bon, ça je sais que le calcul de Toscanelli est moins bon que des calculs qui avaient été faits auparavant, mais je ne sais pas, c'était peut-être les Grecs. Mais effectivement, il y a eu.
Du passage entre les Grecs.
Oui. Ça, je ne connais pas le détail, mais je sais que Toscanelli a fait un calcul qui était moins exact que celui qui avait été fait bien longtemps avant lui. Seulement, Colomb ne connaissait pas le calcul précédent, mais cette lettre de Toscanelli en juin 1474 à ce chanoine portugais que fréquentait Colomb, qui était en plus très intéressé par toutes ces questions maritimes, etc., puisqu'il travaillait sur les cartes lui-même, donc ça l'intéressait. Le chanoine était plutôt un érudit. Et donc, quand il a entendu ça, il s'est dit, bon, ben, finalement, 2400 000, c'est pas tant que ça. Si on y va, peut-être qu'en deux semaines, moi j'imagine, parce que si c'est quatre fois moins, c'est quelque chose comme environ deux semaines. Hein, donc. Et alors, on sait que les marins se sont révoltés. Enfin, c'est connu, si vous avez vu les films, etc., il y en a eu plusieurs. Au bout d'un certain temps, je ne sais plus, le deuxième mois, ça commence à... Bon, les marins disent, oui, alors on nous promet quelque chose, on n'a toujours rien vu, et qu'est-ce qu'il va y avoir au bout, et puis est-ce qu'on va avoir assez de provisions, etc., etc. Si ça dure encore trois mois, il n'y aura plus à manger. Enfin bon, c'est l'affolement. Quoi. Donc certains veulent rentrer. Enfin, c'est... Oui, mais c'est... Là, on peut dire qu'ils ont eu du courage. Enfin, qu'il a eu du courage ou qu'ils ont eu du courage en général.
S'il n'y a plus de questions, je vais me permettre de vous en poser une petite.
Ah, oui.
Quelle est la motivation de Charles Quint d'abolir l'esclavage ? Est-ce par raison humanitaire, religieuse, économique, ou parce qu'il savait que ça n'aurait aucun effet et que ça serait bien sur sa carte de visite ?
Sa carte de visite, je ne sais pas. Bon, je ne connais pas, moi, la motivation intime de Charles Quint. Ce qu'on peut dire, c'est que, d'une part, il est profondément chrétien. Ça, c'est certain. Ce qui ne l'empêchera pas de commencer à persécuter les protestants, donc il y a une première contradiction. Mais il est chrétien en étant fidèle au pape, à condition que le pape lui soit fidèle aussi, donc il faut donner des nuances. Alors, il y a une espèce de jeu de pouvoir entre le pape et l'empereur depuis longtemps, et ça continue exactement pareil sous Charles Quint. Je vous rappelle quand même que les armées de Charles Quint ont envahi Rome, il y a eu le sac de Rome en 1527. Bon, donc, voilà. Donc d'un côté, il est chrétien. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Il a reçu à plusieurs reprises Las Casas et il a été convaincu. Ça paraît évident. Et l'idée de dire que les sujets espagnols, les sujets qui se trouvaient sur place devenaient des Espagnols, lui, apparemment, l'a séduit. De là à dire qu'il pensait qu'ils seraient totalement égaux et que tout d'un coup... les populations locales qui n'étaient pas éduquées, entre guillemets, qui n'étaient pas alphabétisées, enfin bon, qui ne connaissaient pas le fonctionnement de la société économique, on les voit mal, peut-être en trois générations ou quatre, mais on les voit mal gravir l'échelle sociale de toute façon. Donc peut-être l'idée de dire je vais me rendre, comme vous dites, la carte de visite, je vais me donner une bonne image en abolissant l'esclavage sur place. Mais je ne sais pas s'il a fait un calcul aussi machiavélique en se disant de toute façon ça ne se fera pas. Mais il n'a pas évidemment fait des efforts gigantesques pour l'imposer. Donc je ne peux pas vous répondre évidemment de façon définitive, mais à mon avis il y avait un minimum de sincérité quand même chez lui, certainement. Ce n'est pas une mesure totalement opportuniste par calcul, etc. Ça je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on peut dire ça. Mais est-ce qu'il se faisait beaucoup d'illusions sur la réalité profonde, ça, j'en sais rien.
Ok, je remercie encore Monsieur Bernard pour son exposé. Je vous invite dans 15 jours à venir écouter Jean-Jacques Hervé qui va nous parler, ça a déjà été un peu abordé aujourd'hui, des renouveaux de l'économie et des débuts du capitalisme. Ceux qui suivent l'autre cycle... André Foulon, lundi prochain, va nous parler de l'opéra italien. Et alors, je voudrais vous parler aussi d'un projet dont vous avez certainement reçu le dépliant, sinon il y en a à l'entrée, qui est fait à l'occasion de des 20 ans de la chute du mur de Berlin à l'université de Mons, avec notamment le BAM, l'université de Liège, etc., où il y aura à la fois une exposition, un colloque et un concert. Alors, si certains d'entre vous avaient la gentillesse, s'ils en ont l'occasion, de mettre l'une ou l'autre affiche de ces manifestations, elles sont là à votre disposition dans une ou deux semaines.
Merci à vous.